France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, 10e saison en version hebdo désormais tous les vendredis à 10h. Et ce matin, une question pour commencer la saison en beauté: qu'est-ce que l'élégance? L'élégance qui vient du latin elegantia, qui signifie le goût, la délicatesse et la distinction. Nous reviendrons ce matin sur les différents types d'élégance qui ne se limitent pas à notre seule façon de nous habiller ou de nous parer d'accessoires. Car comme le disait Yves Saint-Laurent, en exergue du livre de l'un de nos invités, sans élégance du cœur, il n'y a pas d'élégance. L'élégance, une denrée devenue rare à l'heure de la polarisation de nos sociétés, du clash permanent, de la haine et de l'insulte. Et vous, quelle est votre conception de l'élégance? Vous pouvez laisser message et note vocale sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Pour ma part, la quintessence de l'élégance, c'est Cary Grant et Eva-Marie Sainte dans La Mort aux Trousses. Et c'est le retour ce matin de nos Cary Grant et Eva-Marie Sainte du vendredi, nos deux chroniqueurs historiques et je dirais même préhistoriques. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Je prends le préhistorique, Guillemette.
Honorable professeur de philosophie de son état, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle chronique cette saison, les punchlines de la philo.
Oui, cette saison on fait toujours de la philosophie, mais on va partir de toutes ces citations qui, à force d'être répétées, utilisées dans nos conversations ordinaires, dans des pubs même parfois, on ne sait plus très bien ce qu'elles nous disent vraiment et en quoi elles peuvent nous faire du bien. Donc c'est du « deviens ce que tu es, tout ce qu'une tu pars en plus fort, je pense donc je suis ». Et donc chaque semaine, on prend une citation et on essaye de la remettre à l'endroit.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, nouvelle chronique également pour vous, ciné-thérapie.
Oui, absolument, moi j'ai l'intention de vous guérir, voilà, c'est comme ça. Je me suis dit que pour la 10e année, il serait temps de faire une petite cure. Et puis ce qu'il y a de bien avec le cinéma, c'est que c'est un médicament qui accepte l'accoutumance. Je vais vous accoutumer, vous allez voir ça. Enfin, je vais tenter de régler les problèmes de ce monde.
Ah bah dites-moi en toute modestie.
Oui, bah,
bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
J'aime bien m'habiller, j'aime bien m'amuser, j'aime bien les artisans, j'aime bien les gens qui font bien leur métier. Et donc j'ai le goût des choses faites par la main de l'homme et non pas par une machine. Mon père était quelqu'un de très élégant, d'une origine extrêmement simple, mais il avait l'air d'un grand d'Espagne, quoi. Il était élégant, il aimait ça sans affectation, c'était son goût. Et comme il travaillait dans ce métier-là, il avait le goût des belles matières, de l'ouvrage bien fait. Et c'est vrai qu'il m'a transmis ça dès mon plus jeune âge. Et dès que j'ai eu sa taille, je lui ai fauché ses vêtements. Et disons que les 25 dernières années, c'est moi qui l'ai habillé, quoi. Parce qu'il n'avait plus tellement le temps ni le goût de ça. Et c'était moi qui l'habillais. Et ce renversement des rôles était quelque chose qui me touchait beaucoup. Et je pense qu'il lui faisait plaisir aussi.
Élégance vestimentaire et morale de Philippe Noiret dans l'émission Les Feux de la Rampe de l'élégant Bernard Rapp. Avec nous ce matin, Jérôme Attal, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivain, auteur, compositeur, interprète et vous publiez un très bel essai chez Fayard, Un furieux besoin d'élégance. Bonjour Marc Bauger.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du magazine L'Étiquette, un magazine biannuel, un hors-série vient de sortir consacré au Japon. Vous êtes également chroniqueur dans Quotidien sur TMC. Vous vous considérez comme un arbitre des élégances, Marc Bauger?
Oh non, je n'ai pas cette prétention.
On s'est tous bien habillés ce matin.
Hein. Merci, je l'ai noté, mais non, j'ai pas cette prétention.
Tiens, Jérôme Attal, que vous inspire ce qu'on vient d'entendre, Philippe Noiret?
C'est très beau parce que il résume les trois formes d'élégance qui sont l'élégance vestimentaire, l'élégance morale et l'élégance du cœur. Il y a tout dans ces quelques mots. Donc c'est très beau, puis c'est très nostalgique aussi.
Marc Bauger?
Non, j'ai de la tendresse évidemment pour Philippe Noiret. Je vais dans une boutique où il allait. Et donc à chaque fois que j'y vais, on me raconte, je demande, on me raconte. On me dit parfois que j'ai un air de ressemblance, ce qui me va très bien.
C'est pas faux.
Ce qui me va très bien. Et évidemment, je dois dans mon téléphone des photos de Philippe Noiret, des pantalons jaunes, des vestes à carreaux. Non, je trouve une élégance humaine au-delà de vestimentaire.
Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Et effectivement, grande élégance morale de Philippe Noiret. Guillemette Odissino.
Et puis, vous avez remarqué, il y a encore une autre élégance. C'est l'élégance vocale.
Ouais.
Non mais attendez, vous avez entendu ce phrasé, cette manière en fait de poser ces mots. comme si c'était important, et comme si on prenait vraiment en considération la personne à qui on raconte une anecdote. Ça aussi, c'est une élégance de bien savoir communiquer.
Alors, selon le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ré, élégance provient du latin elegantia, qui signifie donc goût, délicatesse, distinction. Dans le petit Robert de la langue française, c'est la qualité esthétique qu'on reconnaît à certaines formes naturelles ou créées par l'être humain, dont la perfection est faite de grâce et de simplicité. C'est également la qualité de style, une langue pure et harmonieuse. C'est encore l'élégance, le bon goût, manifestant un style personnel dans l'habillement, la parure, les manières, et c'est enfin le bon goût, la distinction accompagnée d'aisance et de style dans l'ordre moral ou intellectuel. Et quelle est votre définition donc de l'élégance, Jérôme Attal? Vous passez après Alain Ré.
Je vais essayer d'être un peu plus simple. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un art de l'équilibre entre le visible et l'invisible. Vous voyez, un peu comme sont les chats, un peu loin. Il y a l'élégance du chat, un peu qui sont un peu des êtres du rebord, comme ça. Et on veut toujours que la porte soit à moitié entrouverte. Et on est un peu comme ça entre le visible et l'invisible. Et en même temps, c'est l'art de... Moi, à chaque fois que je suis tenté de poster sur les réseaux sociaux, je pense à cette phrase de Lord Brummel qui dit que la véritable élégance, c'est surtout ne pas se faire remarquer. Et donc, dans cette société où, évidemment, c'est celui qui se montre le plus, qui est privilégié par les
algorithmes. Le plus fort.
Par les algorithmes, qui parle le plus fort, qui manie l'insulte ou le bon mot, qui est souvent une sorte de diatribe, est récompensé. L'élégance devient une denrée rare et une quête quotidienne de tous les jours. Et je terminerai par dire qu'en amour, il y a aussi une forme d'élégance qui serait peut-être de faire le premier pas, mais sur la pointe des pieds.
Marc Bauger, votre définition de l'élégance?
Ouais, c'est compliqué, forcément parcellaire, mais je trouve que au-delà du vêtement, on en parlera sans doute, et l'élégance dépasse largement le vêtement. Il y a quelque chose un peu de la luminosité. Enfin, quand on rentre dans une pièce, quand on s'adresse à quelqu'un, quand on parle à la boulangère, quand quelqu'un veut nous raconter ses tourments, quand nous, on a ses tourments et qu'on arrive à pas les imposer aux autres, et comme ça qu'on est lumineux quand on arrive dans un endroit. Je crois qu'il y a un peu de ça dans l'élégance, au-delà des petites choses du vêtement.
Ne pas s'imposer aux autres, c'est ce qui revient dans votre essai, Jérôme Attal.
Oui, alors c'est compliqué parce que j'avais envie qu'on réhabilite aussi un peu la timidité et les oui. timides, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très compliqué d'être timide. Et quand on parle de grands artistes, on se demande si aujourd'hui, elles ou ils auraient pu émerger en préservant ce mystère, cette timidité.
Patrick Modiano, que vous citez dans votre livre d'ailleurs.
Patrick Modiano, ou des gens comme Mylène Farmer, enfin tous ces artistes qui ont su conserver leur part de mystère dans une société aujourd'hui, où encore une fois, les algorithmes privilégient l'apparence et j'ai une émotion, je la montre immédiatement. Ça devient l'élégance devient une fragilité et encore une fois un art de l'équilibre.
Marc Bauger.
Non, c'est très juste de effectivement cette déclaration, enfin cette citation de Brummel sur le fait que effectivement déclencher les regards, les commentaires n'est pas l'absolu de l'élégance. C'est effectivement être partout à l'aise, être partout dans l'équilibre et dans une forme de convenance, une forme d'élégance qui se perd.
Thibault,
j'étais pas très assidu en cours de mathématiques quand j'étais au lycée, mais je me souviens que quand on était en maths et qu'il y avait un problème et une équation que moi, évidemment, je n'arrivais pas à résoudre, il y avait parfois plusieurs manières de faire. Et le prof de maths avait cette formule que j'ai trouvée très belle, mais que je n'ai pas très bien compris au début, qui était de dire on va finalement choisir la méthode qui sera la plus élégante comme étant, entre guillemets, la bonne. Et après, j'ai compris, et du coup, ça me fait penser à ce que vous dites, mais que la méthode élégante en mathématiques ou en sciences, c'est celle qui va avoir le maximum d'effets, ou en tout cas qui va permettre de résoudre le problème, avec le minimum de moyens. Il y a une forme de rapport, alors vous parliez d'équilibre, d'optimum, et ça va peut-être avec la discrétion aussi que vous appelez de vos voeux.
Oui, il y a aussi un paramètre intéressant dans l'élégance, c'est que c'est une création. C'est qu'on décide de s'habiller de telle manière où on intervient. C'est comme l'écriture, en fait. C'est à un moment donné, on intervient sur soi et aussi sur les autres. Et je crois que Baudelaire fait un texte là-dessus où il raconte ça, que c'est une création qui est dans les limites extérieures de la convenance. Et c'est justement ne pas trop en faire, mais quand même... vivre selon son originalité. C'est ça qui est aussi intéressant dans le côté créatif et artistique des choses.
Guillemette.
Oui, il y a une notion d'économie, en fait, d'économie de moyens. Mais il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que là, on a prononcé le mot élégance déjà depuis à peu près 52 fois. Vous avez remarqué que dans la vie courante, enfin, ces derniers temps, on dit plus jamais « qu'est-ce que tu es élégant ?» On dit « waouh, ton look, qui pète !» Ouais, non. Enfin, on n'emploie plus, très peu, j'ai rencontré quelqu'un d'élégant. C'est un mot même qui est en train de devenir désuet, et qui est en train de devenir timide.
Parce que la notion en elle-même, c'est-à-dire que les valeurs qui s'imposent aujourd'hui, qui sont la visibilité et l'argent, grosso modo, sont des notions qui en soi portent quelque chose d'un peu inélégant. Et même quand on s'intéresse aux vêtements, à la façon dont les créateurs créent les vêtements, puisque désormais ce qui compte, c'est pas la qualité du vêtement, c'est sa visibilité. Quand on crée un vêtement, on fait en sorte, et les créateurs le disent, ils le concèdent, que sur les réseaux sociaux, quand on scrolle, ils nous arrêtent. Le vêtement élégant, un pull bleu marine, élimé, une veste en tweed, ne font pas s'arrêter les gens sur les réseaux sociaux. En revanche, un hoodie rose avec un énorme chat au milieu fera s'arrêter les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est ça la bataille. Et un créateur comme Jacquemus, à un moment donné, le disait. Il disait, je crée des vêtements pour que ça fasse une grille de 3 photos sur Instagram. Donc sa création était impactée par la visibilité. Et là, on s'est éloigné du souci de l'élégance. Je parle pour la question vestimentaire, mais tout ça, j'ai l'impression que l'argent s'est imposé comme le maître mot. Et quand on a l'argent, on a raison. Et fondamentalement, je ne suis pas sûr que l'argent est un gage d'élégance, une preuve d'élégance, une matérialisation de l'élégance.
Jérôme Attal, vous écrivez une chose très belle. L'élégance, c'est l'alliance de la grâce et de la volonté, de la maîtrise de soi et du souci des autres.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Alors moi, en fait, ce livre, je l'ai écrit pour deux raisons. C'est parce que déjà, j'ai une amie romancière qui s'appelle Elsa Flagel, qui m'avait fait cette réflexion quand elle se faisait pousser dans la rue, c'est elle qui demandait pardon quand elle se faisait bousculer. Et alors moi, ça m'arrive aussi, mais elle était triste parce qu'elle se disait, mais j'aimerais quand même plus réagir. Et moi, je dis tout le temps pardon, j'arrête pas de me faire bousculer tout le temps, mais ça me plaît, je vis ça de manière athlétique.
Ouais, bien sûr. Je reviens sur ce que vient de nous dire Marc Boger, le problème avec l'élégance, c'est qu'elle n'est pas instagrammable. Le je ne sais quoi, cher à Jean Kielevitch, le je ne sais quoi qui caractérise l'élégance ne va pas forcément de pair avec les réseaux sociaux, Jérôme Attal.
Non, mais j'ai l'impression que ce qu'on retient aussi des êtres qui croisent nos vies, ce sont souvent des actes d'élégance. Alors ça peut être une silhouette dans la rue qui peut vous marquer pour la journée, mais ça peut être une parole dans le flot de paroles débiles que vous allez entendre dans votre journée, ou agressives. Tout à coup, quelqu'un, une personne va vous dire une parole qui va résonner en vous avec une forme et une silhouette d'élégance, et vous allez vous souvenir aussi des êtres qui vous ont marqué par leur élégance.
Et vous écrivez d'ailleurs que l'élégance est l'une des formes de résistance les plus probantes à l'ultra-violence.
Ben oui, surtout aujourd'hui où la brutalité devient la première réaction, j'ai l'impression que entrer en élégance, c'est entrer en résistance.
Marc Boger ?
Pas faux. Et en même temps, il y a des situations, il me semble qu'il faut sortir de l'élégance pour protester, pour manifester, exactement, pour revendiquer. Est-ce que c'est sortir de l'élégance que faire ça ? D'ailleurs, on pourrait en parler. Mais effectivement, imposer la douceur plutôt qu'à la violence, l'intégrité à la malhonnêteté, la lenteur à la vitesse, c'est effectivement des matérialisations de l'élégance.
Alors Marc Boger, venons-en à votre beau biannuel, hein, l'étiquette. Il y a mille et une manières d'être élégant quand on est un homme. Et dans les premières pages de votre magazine, les 12 hommes qui posent dans l'étiquette sont tous élégants à leur manière, dans des styles très différents. Il y a Émile Evaé, vendeur, Francis, chanteur et musicien, Laurent, Ticker, Tom, patron d'une salle de sport. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être élégant, ils le sont tous à leur manière.
Non, on a imposé des modèles. Enfin, ces dernières décennies, il y a eu des modèles d'élégance. On pensait à Cary Grant, au costume, tout ça. Mais ce que je trouve élégant dans la façon dont on s'habille, c'est quand, à travers le vêtement, ressort quelque chose de la culture et de l'identité des gens. Les gens que vous citez ont tous des styles très différents, du vintage au costume, des choses plus street et contemporaines. Mais on sent qu'ils aiment ça, et qu'à travers ces vêtements ressortent de leur culture, de leur goût pour la musique, de leur goût pour la patine, de leur goût pour l'art, de leur goût pour la littérature. Et c'est ça qui est intéressant, le vêtement est un objet culturel au même titre qu'un film ou qu'un livre. Quand on achète un vêtement en conscience, c'est comme d'acheter un livre, ça dit autant sur nous que la lecture qu'on peut avoir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, il n'y a pas un modèle ni de corps, ni d'élégance, ni de façon de porter, même s'il y a des règles qu'on s'amuse comme ça à raconter, que je m'amuse comme ça à raconter, à détourner avec une forme de premier, voire de millième degré. Mais tout ça est un jeu, et ce que je veux transmettre modestement, évidemment, c'est un peu de culture autour du vêtement.
On peut être élégant avec juste un jean brut et un pull noir, avec bien trois sûr. Fois rien. L'élégance, c'est pas une question d'argent, c'est pas une
non,
question de moyens.
C'est même souvent... En fait, beaucoup d'argent et peu de culture ou peu de goût pour le vêtement et vouloir aller vite et s'acheter les choses les plus chères pour être élégant, c'est évidemment le chemin le plus rapide vers l'échec. Non, le vêtement, ça demande du temps, de la modestie, de comprendre son corps, de développer une culture autour de ça. Et surtout, ça demande plus de goût que d'argent. Non, l'argent n'est pas une garantie d'élégance, loin de là.
Guillemette.
C'est peut-être pour ça aussi alors que l'élégance n'est plus vraiment à la mode. C'est parce qu'en fait, dans un monde où on va tout le temps vite... Parce que moi, je les regarde, là, ces messieurs, là, en... Je me suis demandé lequel je préférais. Dans les... C'est compliqué
tous
de choisir.
Je transmets oui, les contacts. Alors...
Mais on sent que le matin, ils ont pris du temps pour s'habiller. Que le fait de sortir et de se présenter au monde n'est pas un acte anecdotique. Que pour eux, c'est important. Donc, ils ont... et en plus, ils ont pris du temps pour choisir ces vêtements-là. Ils ont laissé ces vêtements vieillir.
Bien sûr.
Puisque souvent, en plus, ils les ont achetés dans des fripes et tout. Donc, c'est vrai que la notion du temps correspond vraiment beaucoup aussi. Oui.
L'industrie de la mode a un but, au fond, c'est de nous faire revenir tous les 6 mois en boutique pour refaire sa garde-robe. Oui. L'élégance est l'inverse de ça. Oui. L'élégance, c'est acheter des vêtements, le porter, l'aimer et le voir vieillir sur soi.
Allez, il est 10h23, l'heure de retrouver la toute nouvelle chronique de Guillemette Audicino, Cinéthérapie.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Guillemette Audicino.
Alors, cher Ali. Alors, un film, bien entendu, peut être artistique, esthétique, ludique. Bon, j'ai cherché d'autres trucs en hic, mais j'ai pas trouvé. Mais bien des fois, il peut aussi être un parfait analgésique, pim, un antihistaminique, diablement efficace, hein, calmant certaines douleurs du quotidien ou certaines allergies au monde tel qu'il est, c'est-à-dire relativement pourri quand même, il faut le dire. Un bon film est un médicament générique. Alors, film générique, vous avez capté, hein,
oui.
J'ai très fier de mon truc. Qui plus est, sans risque de nausée ou de somnolence. Donc là, c'est bon, j'ai planté les bases de ma nouvelle chronique sur les vertus thérapeutiques du cinéma et je vais pouvoir coller au sujet de ce vendredi. Donc l'élégance. Pour l'écrivain Paul Valéry, l'élégance serait, je le cite, « l'art de ne pas se faire remarquer, allié aux soins subtils de se laisser distinguer ». Waouh. Bon, ce qui en termes simples reviendrait à tenter d'être chic sans se la péter. Ce qui m'amène tout naturellement à Audrey Hepburn. Hein, quoi ? Elle se fout de notre gueule, la chroniqueuse ? Oui, alors, j'ai décidé, cette saison, de parler aussi à la place des auditeurs. Elle se fout de notre gueule, la chroniqueuse ? Elle trouve ça réconfortant de donner comme exemple l'une des plus gracieuses créatures que la Terre ait jamais portées ? Qu'on se rassure, moi-même, comme la commune des mortels, si j'enfile, au chausse-pied, hein, une petite robe noire façon fourreau et que je me fais un chignon, je ressemble à un cache-théière. Dans Diamant sur canapé de Black Edwards, cette merveille de comédie hautement mélancolique, Audrey grignote donc un croissant dans cette robe Givenchy devenue légendaire. Et pourtant, c'est dans une autre scène que je trouve Audrey bien plus élégante.
Sur un balcon.
Tout à fait. Son personnage, Holly Golightly, dont il faut rappeler quand même qu'elle se prostitue vaguement pour boucler ses fins de mois, chante sur le bord de sa fenêtre en s'accompagnant à la guitare et elle porte un jean, un sweatshirt gris clair un peu mou et même un vague torchon noué sur la tête. Bon alors attention, hein, vous mettez pas un torchon, il y a quand même que sur Audrey que ça marche. Hein, bon. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que son voisin tombe vraiment amoureux d'elle. Même la comédie la plus sophistiquée du monde nous enseigne que rien ne vaut le naturel et la simplicité. Et si le cinéma repose beaucoup sur la majesté textile, heureusement, il met en valeur aussi la qualité du tissu humain. Prenez Daniel dans le chef-d'œuvre de Ken Loach, moi, Daniel Blake. Un jour, dans un bureau du Pôle emploi anglais, cet ébéniste de plus de 50 ans qui ne peut plus travailler à cause de problèmes de santé se lève pour prendre la défense d'une jeune mère de famille chômeuse. Son geste de solidarité et tous ceux qui suivront ont plus d'élégance que toutes les Fashion Week, printemps, été, automne, hiver, demi-printemps, quart d'hiver, simili-automne, enfin je ne sais plus d'ailleurs, réunis. Et vous risquez de vous foutre complètement, mais alors d'être raffiné, quand vous vous moucherez d'émotion dans votre manche à la dernière séquence.
C'est une vaste blague tout ça, non ? Chercher un travail qui n'existe pas, tout ça est totalement humiliant.
Vous risquez juste de tout perdre.
Je ne vais pas laisser tomber. Quand c'est votre dignité que vous êtes en train de perdre, vous êtes foutu.
En fait, c'est ça, l'élégance. Que ce soit avec Oli ou avec Daniel. Ne jamais oublier de relever la tête bien droite face à l'inélégance du monde.
Jérôme Attal.
Oui, vous savez, dans Oli Golightly, c'est déjà élégant, Golightly. C'est Golightly, c'est aller...
aller vers la lumière.
Oui, comme disait Marc, c'est être une personne lumineuse.
Ali Rebbi.
On ne dit surtout pas, non merci, je suis rassasié. Hein, ni bon appétit, monsieur Nain.
Pourquoi ?
C'est plouc, Fabien, enfin. T'imagines ?
Enfin, si tu le dis comme ça, bon appétit ! C'est très élégant.
Sur France Inter.
Ça en jette énormément, voyons.
Grand bien vous fasse le vendredi de 10h à 11h. Et une question cette semaine, qu'est-ce que l'élégance en compagnie de Jérôme Attal qui publie un furieux besoin d'élégance avec le journaliste Marc Baugé, chroniqueur à Quotidien sur TMC et rédacteur en chef du magazine biannuel. Qu'est-ce que c'est chic, un magazine biannuel, Marc Baugé.
Ça
s'appelle, vous prenez le temps, ça s'appelle L'étiquette homme. Et avec nous également, le chef Grégory Cohen. Bonjour mon cher Greg.
Bonjour Ali.
Vous partagerez tout à l'heure votre vision de l'élégance en cuisine. Jérôme Attal, petit catalogue dans votre livre des personnes élégantes qui vous ont marqué. On peut citer Claude Rich, Françoise Hardy, Patrick Modiano, Neil Hannon, le chanteur de The Divine Comedy, Rita Hayworth, Lorraine Bacall. Tiens, qu'est-ce qui rassemble, Jérôme Attal, toutes ces personnes qui peuplent votre panthéon personnel de l'élégance ?
Alors, c'est pour des raisons totalement différentes, par exemple.
Mais qu'est-ce qui les rassemble, au fond ?
Claude Rich, quand j'étais adolescent, j'habitais près d'Orgeval. Ouais. Et le dimanche matin, j'allais au Chopi d'Orgeval. Et il y avait une espèce de concours d'élégance entre Claude Rich et moi, qui fréquentait le Chopi d'Orgeval aux mêmes horaires. Et tous les autres étaient habillés en survêtements et en dimanche matin. Et on était les deux seuls avec Claude Rich, on se jaugeait un petit peu comme ça.
Thibaut de Saint-Maurice a un côté Claude Rich un petit peu, je trouve.
Ouais. Hein,
avec un petit morceau de pain au chocolat dans la bouche.
Ouais. Mais j'aime votre expression s'habiller en dimanche matin, ça, c'est pas mal, je la ressortirai.
Et voilà, sinon non, j'ai l'impression que ce qui réunit toutes ces personnes, c'est le trait. Alors ça peut être le trait d'esprit, ça peut être le trait d'union, ça peut être le trait de la silhouette. C'est quand on demandait à Sempé, le dessinateur, qu'est-ce qui caractérisait, un peu comme vous me l'avez demandé, tous les collaborateurs et les collaboratrices du New Yorker, il disait, je crois que...
Magazine auquel il a longtemps participé. Hein.
Oui, il a fait beaucoup de couvertures du New Yorker. Et il disait, j'ai pas de contact avec les autres dessinatrices et dessinateurs, mais j'ai l'impression que ce qui nous rassemble, c'est l'élégance, c'est dans le travail. Il disait ça, l'élégance dans le travail. C'est un truc qui m'avait un peu marqué, parce qu'effectivement, voilà, ce qu'on cherche, Modiano, on parlait de Modiano, j'ai l'impression que dans ce Paris labyrinthique, il y a une espèce aussi de forme de retour, d'élégance, et c'est aussi l'élégance des labyrinthes qui sont à l'entrée des cathédrales, où quand vous entrez, vous voyez, il y a beaucoup de labyrinthes, en fait, dans les cathédrales gothiques ou romanes, qui sont soit sur la pierre avant l'entrée, soit dans l'église. Et en fait, quand les pèlerins allaient, prenaient le chemin des labyrinthes, ils ne savaient jamais l'autre pèlerin à quel moment elle était entrée dans le labyrinthe. Et c'est pareil quand on croise des gens dans les soirées ou dans la rue, on ne sait jamais où en sont les gens de leur vie. Et on est un peu dans ce labyrinthe comme ça, et il faut rivaliser d'élégance pour pouvoir être en mesure de parler à l'autre de manière bienveillante et élégante.
Guillemette.
Mais en vous écoutant, là, c'est très beau ce que vous dites, mais il y a le trait, mais finalement, ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'il y a aussi une part de mystère.
Oui.
C'est-à-dire que l'élégance, elle repose, Ali disait le je ne sais quoi, ce presque rien qui. Mais donc, il y a comme une toute petite différence, qu'on serait incapable peut-être de désigner, mais quelque chose qui fait que cette personne n'est pas exactement j'allais presque dire de ce monde, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu à côté comme ça.
Oui, mais quand
comme
une
magie. Un peu.
Quand vous tombez amoureuse, c'est pareil. Il y a un mystère qui est là et vous êtes bouleversé par ce mystère.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant quand, au-delà d'une forme d'apparence parfaite, une langue châtiée, une mise impeccable et tout, il y a un chaos quelque part. C'est-à-dire, j'aime bien les gens élégants quand ils ont un rapport à l'argent complètement baroque, quand ils mangent n'importe quoi. J'aime bien quand il y a ce truc un peu fou, un peu rock d'une certaine façon, un peu bizarre, un peu torturé, derrière une apparence comme ça extrêmement polissée.
Et à quoi ressemble, Marc Bauger, votre panthéon personnel de l'élégance ?
Et on a cité beaucoup de noms, effectivement, de grands élégants, Noiret, Carré-Gantin. Ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, comme l'élégance n'est pas que vestimentaire, on connaît l'image des gens célèbres, mais on ne sait pas à quel point, dans l'intimité, ils sont élégants. Mais sûr que Grant, Noiret, Jarvis Cocker, j'avais noté Brian Ferry, Paul Weller... Kurt Cobain, je trouve, avait une élégance, parce qu'on l'assimile plutôt ses tenues à quelque chose de grunge, et pas du tout élégant, mais il luttait contre le prix des places, il était toujours très généreux avec ses fans, il y avait quelque chose comme ça en lui de très élégant, et peut-être même de trop élégant pour l'époque. Mais l'élégance n'est pas toujours là où on croit la percevoir.
Grégory Cohen.
Oui, pour moi, Serge Gainsbourg, d'une élégance rare, et pourtant, on lui avait reproché plein de fois d'être sale, crado, etc. Et
vous l'avez connu, hein ?
Moi, je l'ai connu, et c'est surtout que c'était absolument dingue. Alors, c'est drôle parce que c'était aux antipodes de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait y réfléchir à ce qu'on allait porter, regarder dans sa garde-robe. Et il était assez mono garde-robe, il avait ses pompes, c'était des Yeezy, Repetto, les mêmes. Son jean, il était élimé, le même, mais il en avait 10.
On peut être monomaniaque et élégant.
Exactement, exactement. Mais il le portait avec une telle élégance que c'était absolument bouleversant.
J'aimerais qu'on évoque l'élégance morale, Jérôme Attal. Un jour, vous découvrez une archive du président Georges Pompidou. Nous sommes le 22 septembre 1969, lors d'une conférence de presse.
Monsieur le Président, je voudrais vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ?
Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé, d'ailleurs, sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Jérôme Attal, vous êtes époustouflé par l'élégance de Pompidou à ce moment-là de cette conférence de presse du 22 septembre 1969.
Ouais, mais j'imagine comme nous toutes et tous ici, et puis vos auditrices et vos auditeurs aussi, quand on écoute cette archive, je trouve ça dingue pour plusieurs raisons. Déjà, quand on voit le niveau de l'Assemblée aujourd'hui, ils sont pas vraiment à citer du Paul Éluard. Et je trouve que c'est classe. Donc c'est une affaire qui avait défrayé la chronique à l'époque, et Pompidou venait juste d'être élu.
Une affaire qui a été l'affaire Gabriel Russier, qui a été adaptée au cinéma avec Annie Girardot dans le film Mourir d'aimer.
Ouais, donc c'est une jeune professeure qui tombe amoureuse de son élève, et alors évidemment toute la société condamne l'affaire, et elle a deux petits enfants, et elle sait pas comment elle va vivre si elle perd son job, et elle finit par se tuer. Le poème d'Éluard en question, en fait, c'est un poème qui a été fait par Éluard pour parler des femmes tondues à la Libération. Pompidou fait un petit raccourci, je trouve que je suis toujours estomaqué en écoutant un président de la République comme ça. Alors vous avez relevé, il y a l'élégance aussi. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pensé, et je ne vous dirai pas ce que j'ai fait. Donc on imagine qu'il a fait quelque chose en plus. J'aimerais qu'aujourd'hui les hommes politiques citent des poèmes.
Marc Bauger qui avait une vraie élégance vestimentaire, un discours vestimentaire, sans doute le premier homme politique à s'intéresser au sujet. Et effectivement, quand on a le goût des choses, et le goût des poèmes d'Éluard, et le goût des vêtements, tout ça me paraît cohérent. Enfin, l'élégance, on va la chercher dans ce qu'on lit et dans ce qu'on porte. C'est la même chose, au fond.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, Jérôme Attal, vous avez dit « c'est classe ».
Et on a aussi parlé d'élégance en termes de distinction. Il y a quand même un peu une sorte de peut-être de lièvre à lever là-dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi nous dire que l'élégance, c'est bien une question de classe, mais aussi d'appartenance à une classe sociale. Que le souci de la distinction, c'est le souci d'une distinction par rapport à ce qui pourrait être vulgaire, vulgus, populaire donc, et que au fond notre quête d'élégance ou notre furieux besoin d'élégance, est-ce qu'il n'est pas un peu suspect? Et socialement ou...
Mais non, c'est ce qu'a dit Philippe Noiret au départ, que son oui. père était un homme très simple et il se tenait
comme un grand d'Espagne.
Ouais. Ouais. Ouais.
Un mot, Jérôme Attal, sur l'élégance de votre mère. Très beau passage dans votre livre. Votre mère devenue comtesse à l'âge de 18 ans en se mariant au comte Henri de Noidan. Pourquoi était-elle l'élégance personnifiée? Et je vous ai dit hors antenne que le portrait de votre mère, votre beau portrait, me faisait penser à celui de ma mère ou de ma grand-mère maternelle. Et ça me fait penser aussi à la mère de Guillemette Odissino. Vous en parlez souvent dans votre émission. Et c'est vrai que vous avez une manière magnifique d'en parler. Elle vous disait par exemple, tu ne me verras jamais dire du mal de quiconque.
Ouais, alors ça c'est un très beau compliment que vous venez de me faire hein, quand voilà quand on écrit et quand on nous dit ça me fait penser aussi à ma maman. Je, voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, en fait, ma maman, elle était née en 1926, donc c'est une femme qui a vécu toutes les tragédies du siècle. Elle était belge et elle a épousé un comte, donc Hector de Noidan, à 18 ans. Et à 18 ans et demi, elle est devenue veuve parce que le type s'est tué d'un accident de chasse en nettoyant son fusil ou je sais pas quoi. Donc et j'ai retrouvé une lettre d'elle où elle dit, elle écrit à la mère de ce comte en disant qu'elle renonce au château dans les Ardennes, qu'elle renonce à tout et qu'elle préfère que ça aille à la famille vu qu'elle se sent un peu parachutée comme ça. Et oui, j'ai l'impression que dans les années 70, on parle de Pompidou, voilà, ma maman, moi je l'ai connue, donc ils m'ont eu tard mes parents, donc j'étais un enfant avec des adultes de 40, 50 ans qui avaient le souci de cette époque, de l'élégance. Alors peut-être que c'est de la nostalgie, mais dans nostalgie, graphiquement, il y a aussi le G et le L de élégance. Donc la nostalgie est peut-être aussi une forme d'élégance.
Marc Bouger.
Je pense qu'il ne faut pas confondre élégance et bon goût. Mm. Le bon goût est une culture et des codes bourgeois transmis de génération en génération par des gens bourgeois. Effectivement, l'élégance, c'est un peu autre chose. L'élégance et n'est pas le respect d'une suite de règles préfabriquées, et c'est bien plus que ça.
Un chapitre qui m'a beaucoup plu dans votre livre, Jérôme Attal, ce sont les preuves irréfutables du manque d'élégance. On va les citer, on va voir si vous validez autour de la table. Être obséquieux avec les puissants, hein, on est tous d'accord.
Hein. Ouais.
Ne montrer de l'intérêt que pour celles et ceux qui pourraient servir notre propre intérêt, faire étalage de ses connaissances, monopoliser la parole, spécialement quand on n'a rien de crucial à dire. C'est drôle,
c'est
si
bien
vous
ça.
Écrivez. Se comparer sans cesse, ricaner, cancaner, fanfaronner, s'imposer par le conflit, le chaos, la violence et le dénigrement, profiter au lieu d'offrir, et vous terminez avec ce verbe forcer.
Ouais.
Ouais, ça, ouais. Ce sont des preuves irréfutables du manque d'élégance. On est tous d'accord.
Ouais. Si Marc valide, je suis heureux.
Je valide.
Guillemette.
Ah oui, je valide. J'ai beaucoup aimé la phrase de votre grand-mère. Qu'elle ne veut, enfin, jamais on ne l'entendra dire de votre maman, de mal de quiconque. Je pense que ça, enfin, les jugements à l'emporte-pièce, et forcer aussi, oui. Moi, ma mère disait, ah, je t'en supplie, tu mets jamais le pied dans la porte.
Ah.
Il y avait quelque chose de si on ne veut pas de toi, ou si on. Tu, voilà, bah, tu forces pas.
Oui,
alors ce truc de forcer, oui. Alors les réseaux sociaux, on ne parle que de ça, en fait.
C'est très
ça
beau.
Ça nous force.
Hein.
Ça force, quoi.
Ce que disait votre maman, c'est magnifique, mais malheureusement, notre société n'encourage pas ça. J'ai l'impression qu'on récompense plutôt les personnes qui mettent le pied dans la porte, malheureusement.
Je trouve qu'il y a une grande élégance, puisqu'on parle des rapports humains, à concéder dans un débat. Tu as raison.
Oui.
Et moi, alors c'est une force, hein, c'est-à-dire qu'il faut être capable de descendre un peu et de concéder à l'autre qu'il a raison. Moi, ça m'arrive souvent, après comme ça, une discussion un peu plus ou moins houleuse, d'envoyer un SMS. J'aimerais bien, et de m'excuser ou de dire t'avais raison. Et j'aimerais bien le faire sur le moment. Tout est éducation et progrès. Mais je trouve ça, c'est l'élégance, de concéder à l'autre, t'avais raison.
Thibault ?
Oui, c'est la différence, en fait, entre une succession de monologues et une conversation.
Bien sûr.
Dans la conversation, il y a ce souci, en tout cas cette éthique du salon de conversation, qui est aussi de se laisser presque éduquer par la parole de l'autre. Et donc, ça veut dire que la condition de départ, c'est que on puisse effectivement changer d'avis en écoutant la pertinence des arguments de l'autre, etc. Parce que si on se lance dans la conversation, comme on a parfois cette caricature du débat politique, ou ça, en disant, bon, bah, comme ça, chacun va pouvoir exprimer ses convictions, bah, ok, c'est super, mais donc c'est juste une juxtaposition de deux monologues.
Alors Jérôme Attal, vous rendez hommage dans ce livre à un type que j'aurais adoré rencontrer, Bernard Rapp, auteur, réalisateur, journaliste. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de l'émission mythique L'assiette anglaise sur Antenne 2 à l'époque. On vient d'en écouter le générique, sa présentation très british, très BBC des journaux télévisés ou de ses films comme Une affaire de goût. Racontez-nous Bernard Rapp pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas et pourquoi admiriez-vous son élégance ?
En fait, il avait été correspondant, je crois, longtemps à Londres, du journal d'Antenne 2, je pense. Mm-hmm. Et on lui a confié des émissions culturelles. Et grâce à lui, moi, alors je regardais ses émissions.
C'était le samedi vers midi.
Ouais, et puis après le dimanche avec Jamais sans mon livre, je crois. Et j'ai découvert Dostoïevski dans la collection Babel, par exemple, grâce à André Markovitch. Je me souviens, j'habitais près de la rue Mouffetard à Paris, et j'allais à la librairie ouverte le dimanche juste après l'émission. Et ça a tranché parce que juste après, on a eu Jean Edernalier qui lui balançait les bouquins dans son émission littéraire un peu partout. Et donc il y avait vraiment deux écoles, deux styles.
Et c'est vrai que l'assiette anglaise se déroulait au St James Club à Paris, entouré d'une belle bande, notamment l'écrivain regretté Jean Tellet, avec de l'ironie, une bienveillance un peu souriante et parfois un peu moqueuse, et puis très cultivée. C'est vrai que c'était une émission. Est-ce qu'on serait capable de refaire aujourd'hui l'assiette anglaise ? Ça, je ne sais pas si
allez,
il y aurait le public.
Challenge.
Allez, on y va, Jérôme Attal. Guillemette.
Bah non, mais j'étais juste toute contente parce qu'il y a quelqu'un qui a prononcé le mot Londres, Angleterre. Oh, et il faudrait quand même dire à un moment que l'élégance britannique, oui. Et justement aussi dans son côté extravagant, c'est-à-dire enfin, réussir à être rock, punk, chic, classe en même temps, tout ça vient quand même un peu de nos chairs. Bon, moi, je suis un petit peu anglophile sur les bords.
Souvenons-nous de John Steed et ma pile dans Chapeau melon et bottes de cuir.
Voilà, d'un côté, il y a le costume sublime avec le chapeau melon et le parapluie. De l'autre côté, il y a des Sex Pistols avec une robe en cuir. C'est magnifique.
Mais parce que l'élégance anglaise est beaucoup fondée sur les principes des sous-cultures musicales. Et effectivement, quand notre tenue raconte ce qu'on écoute, au-delà de juste ce qu'on porte, elle a plus de sens.
Elle est dans la rue, l'élégance anglaise, bien beaucoup.
Sûr. Allez, on parlait d'assiette anglaise, il est temps d'accueillir donc Grégory Cohen. C'est quoi l'élégance en cuisine pour vous ?
Alors là, c'est super compliqué en réalité, parce que tout à l'heure, Guillemette parlait des portraits qu'il y avait dans l'étiquette, le biannuel de Marc, et disait qu'elle aimerait bien rencontrer, elle se demandait lequel elle allait rencontrer. et jusque-là, en fait, tout va bien. C'est de l'élégance parce qu'on le voit et qu'on va porter toute... notre imaginaire sur la personne et sur le visuel de la personne. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, il est habillé comme ça, il est élégant, il doit apporter telle et telle valeur. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout fréquentable et avec qui elle va pas se plaire.
Mais j'avais l'intention de le goûter. Hein,
c'est tout le principe de la cuisine. La cuisine, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais présenter un plat ou on va présenter un plat élégant. Et donc, à prime abord, on va se dire que l'élégance en cuisine, c'est le petit trait de sauce, le visuel hyper graphique qui va rappeler tel tableau ou telle inspiration, posé à la pince et puis avec une perfection absolue.
Pour vous, c'est une affaire de justesse avant tout.
Mais c'est au-delà
de ça. Un plat élégant, c'est celui qui n'en fait pas trop.
C'est exactement, c'est au-delà de ça. Le plat élégant, c'est, comme disait Saint-Exupéry, la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et en fait, c'est ça, le plat élégant. En tout cas, c'est une des compositions du plat élégant. Évidemment, après, il y a tout le reste, il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il soit juste dans la cuisson, il faut qu'il soit juste dans les goûts, il faut qu'il soit juste dans les gestes. Parce qu'il tient une promesse, lui. La promesse de se faire goûter. La promesse de faire valider le fait qu'il est vraiment élégant. et il ne s'agit pas juste d'une apparence. Mmh. Il doit tenir cette promesse-là, et c'est là où tout devient compliqué. Et en fait, cette élégance, moi, à force de pratiquer la cuisine, eh ben, elle évolue. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est autre chose, peut-être, ça doit être l'âge. Merci, Ali adore rappeler le fait que je suis l'aîné de cette table, hein. Ou quasiment. Et donc, avec l'âge, je pense que mes standards d'élégance changent, ils évoluent. Et en cuisine, c'est aussi la même chose.
Et puis, il y a le geste aussi. C'est quoi le geste élégant en cuisine, Grégory?
Le geste élégant en cuisine, c'est ce geste qui va nous permettre de dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Mmh. En fait, c'est le geste qui va permettre de gommer tout. Le geste qui va laisser la part belle à l'invisible, à l'indicible, à cette musique inaudible qui fait que lorsque le plat arrive et qu'on le déguste, on se dit « waouh !» Mais on n'a pas vu tout le travail derrière. Et c'est tout ce qui est hyper intéressant dans la cuisine, c'est de ne pas être dans la démonstration, de ne pas être dans l'exagération, d'être dans une justesse, dans un geste précis mais invisible, qui va nous permettre d'accéder à ce goût qui va valider ce principe d'élégance.
Et pour vous, l'élégance en cuisine, c'est donc une politesse, une délicatesse?
Ouais, c'est ça. L'élégance en cuisine, c'est ne pas forcer, ne pas violenter,
être ostentatoire.
Ne pas être ostentatoire. C'est cette forme de politesse, c'est susurrer au palais, c'est murmurer des saveurs, c'est faire voyager en toute simplicité.
Et au fond, Grégory Cohen, l'élégance en cuisine, pour vous, ce n'est pas une assiette qui se regarde dans le miroir?
C'est certainement pas une assiette qui se regarde dans le miroir. Non, non, évidemment, c'est pas non plus un chef qui cherche à montrer ce qu'il sait faire. Non, un plat élégant, c'est simple, sans être simpliste. C'est raffiné, sans être précieux. C'est une générosité discrète. Un plaisir évident, une émotion qui s'impose sans qu'on ait besoin de l'expliquer.
L'élégance en cuisine, selon Grégory Cohen, qu'on peut retrouver sur son compte Instagram, Grégory Cohen off avec
deux F.
Un petit Jérôme Attal sur ce que vient de nous dire Grégory.
Oui, c'est exactement ce que dit Grégory, ce que dit Francis Bacon, le peintre de sa peinture, et pas Bacon, pas pour la cuisine, hein, mais pour la peinture.
Ça tombe bien.
C'est ce que dit Francis Bacon, il dit que ce qu'il recherche, c'est la sensation et pas l'illustration.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Grand bien vous fasse.
L'homme qui a des remords est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon?
Si. Ben, si.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, dans votre toute nouvelle chronique philo, les punchlines de la philo, vous nous proposez de décrypter les citations les plus célèbres de la philosophie pour nous rappeler comment et pourquoi elles peuvent nous faire du bien. Et ce matin, vous commencez avec le fameux « connais-toi toi-même ».
Mais oui, Ali, cette formule que l'on trouve donc à plusieurs reprises dans la bouche de Socrate, hein, le papa de la philosophie européenne, eh ben en fait, elle n'est pas de lui, puisque c'est une des trois inscriptions que l'on trouvait écrites au fronton du temple d'Apollon dans la ville de Delphes. C'était une invitation faite par les dieux, donc, à celles et ceux qui voulaient entrer dans le temple. Mais c'est bien parce que Socrate la reprend et en fait un des piliers de sa pratique de la philosophie qu'elle nous est parvenue et qu'elle est passée donc à la postérité à travers les dialogues rédigés par son poteau et élève Platon. Alors, connais-toi toi-même, ça sonne d'abord comme une invitation à la connaissance de soi, comme une introspection. Il s'agirait donc de prendre conscience d'une sorte de soi intérieur, pas toujours évident à identifier, comme s'il fallait faire le tri entre ce que nous croyons être, ce dont nous avons hérité de nos parents, de notre éducation, de nos fréquentations, et ce que nous serions vraiment à l'intérieur. Une invitation à faire le tri aussi entre nos émotions, nos obsessions, nos traumatismes et nos aspirations profondes ou nos choix vraiment personnels. Notre époque qui a fait du développement de notre personne la nouvelle clé du bonheur ne peut donc que reprendre à son compte cette belle invitation faite il y a plus de 2000 ans.
Mais il ne faut pas oublier, Thibaut, que cette citation « Connais-toi toi-même » était inscrite sur un temple.
Oui, et ça c'est essentiel. Ce sont donc les dieux qui parlent, alors peu importe qu'ils aient existé ou non, ça signifie juste que le « Connais-toi toi-même » est d'abord une parole adressée à notre humanité. Avant d'être une invitation à se connaître soi, c'est donc une invitation à connaître sa condition d'être humain. À ne pas se tromper de place dans l'ordre du monde. À ne pas se prendre pour un dieu, d'un côté, à ne pas donc se laisser prendre au piège de cet infini du désir qui nous pousse à l'ambition démesurée, à la quête illimitée des plaisirs, de la richesse, de la célébrité ou du pouvoir, mais aussi de l'autre côté, c'est une invitation à ne pas se prendre pour des bêtes, à ne pas se contenter d'une vie d'instinct, de rapport de force et d'irresponsabilité. Il faut donc prendre le temps de connaître cette condition si particulière qui est la nôtre, cette condition d'être humain qui n'est ni celle des dieux, ni celle des animaux. Et si c'est si difficile, c'est qu'il y a bien de la puissance en nous qui peut nous faire nous prendre pour des dieux parfois, et qu'il y a bien de l'animal en nous, puisque nous vivons d'une vie biologique partagée avec d'autres espèces animales. Si donc l'ami Socrate insiste tellement sur cette connaissance de soi, ce n'est pas en tant que psy ou en tant que coach, mais bien en philosophe. Alors, le psy et le coach, hein, bien sûr, sont importants pour accompagner chacun de nous dans la prise de conscience de nous-mêmes, mais le philosophe nous rappelle aussi et peut-être d'abord le cadre de cette prise de conscience. C'est le cadre tout à fait singulier de notre humanité. Et c'est assez beau parce que ça signifie que notre humanité, notre condition n'est pas donnée, mais que nous devons l'apprendre. Apprendre à la connaître et donc apprendre toute l'humilité de notre place, à la bonne altitude, pour ainsi dire, entre l'instinct et la toute-puissance. Et c'est beau aussi parce que cet apprentissage-là, c'est un apprentissage continu. Il n'y a pas d'âge pour se rappeler que nous ne sommes que des hommes, capables, comme le dit 2000 ans après Socrate, un autre philosophe, Paul Ricoeur, capable donc de la joie du oui dans la tristesse du fini.
La toute nouvelle chronique de Thibaut de Saint-Maurice, les punchlines de la philo, à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas ce soir, l'heure philo à 20h avec notre camarade Patricia Martin. Merci Jérôme Attal, je recommande vraiment Un furieux besoin d'élégance. C'est publié chez Fayard. Merci d'être venu
merci
ce matin.
Vous, merci beaucoup.
Et merci Marc Bauger, on vous retrouve merci la semaine prochaine dans Quotidien sur TMC. Et l'étiquette est disponible en kiosque avec le hors-série consacré au Japon. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Grégory et Guillemette. Merci à Nathalie Romero qui a préparé cette émission aidée de Noé Brabant. Merci à Maria Pasquet à la réalisation, à Valentine Chedebois à la programmation musicale, à la technique ce matin David Diboué-Black et Titouan Labarre.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.